Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
C'est le procès le plus attendu de ces dernières années dans l'île.
Celui du double assassinat de l'aéroport de Porreta. Il s'ouvre cet après-midi devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Un procès hors norme, ultra sécurisé. Après 6 ans d'enquête, 16 accusés vont comparaître pendant 2 mois. Parmi eux, les frères Guadil et leurs complices présumés, Jacques Mariano Catigo-Châtelain, la gardienne de prison. Les dessous de l'assassinat de Jean-Luc Codaccioni et Tilly Quilichini en décembre 2017 ont été largement racontés dans les médias. Alors le procès permettra-t-il d'en savoir un peu plus? Pour cela, il faudrait que les accusés sortent du silence, Marion Gallon.
Depuis son arrestation le 12 décembre 2017, Christophe Guadil, principal accusé, est resté totalement silencieux devant les enquêteurs. Le jeune homme a depuis le début de la procédure eu plusieurs avocats, il n'en a désormais plus qu'un, Franck Berton. Ce pénaliste aguerri avait un temps été l'avocat de Salah Abdeslam, mais avait finalement refusé de le défendre en raison de son silence. Alors a-t-il réussi à convaincre Christophe Guadil de sortir du sien? Ce sera l'une des premières clés de ce procès. Si c'était le cas, cela pourrait également encourager Richard Guazzelli, le frère de Christophe, et Ange-Marie Michelozzi, tous deux également muets depuis le début, à s'exprimer au cours de l'audience. Les yeux seront également tournés vers Cathy, la gardienne de prison, la matone, héroïne malgré elle du film Borgo. Loin de la fiction, elle attend ce procès et s'y prépare depuis des années. Elle souhaite pouvoir s'expliquer et rétablir sa vérité, même si ses propos ont parfois été plus que confus durant l'instruction.
Merci Marion, on vous retrouvera en direct d'Aix-en-Provence dans la journée pour suivre l'ouverture de ce procès. Un plongeur a été retrouvé mort hier sur la plage de Lumio. L'homme d'une quarantaine d'années était porté disparu depuis plusieurs heures après être parti plonger en apnée. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas encore connues. La France insoumise à Juventus Manca ou encore les amis de Daniel Casanova dénoncent un ensauvagement de l'extrême droite, notamment en Corse. En tout, une quinzaine de groupes politiques et d'associations signent un communiqué après le passage d'Éric Zemmour à Ajaccio samedi. Le président du parti Reconquête a asséné un coup dans le dos d'une militante après qu'elle lui ait jeté un œuf. Des violences de l'extrême droite inacceptables pour le collectif. À l'international, toujours pas de trêve en vue à Gaza. Les discussions doivent reprendre aujourd'hui entre Israël et le Hamas. Mais pour le premier ministre israélien, il est impossible d'accepter la réclamation du Hamas d'un cessez-le-feu définitif dans le territoire palestinien en préalable à tout accord. Inacceptable sans résoudre notamment la question des otages enlevés le 7 octobre en Israël.
Le devoir de mémoire 32 ans après la tragédie de Fouriagne.
Les hommages ont été rendus hier au stade Armand Cesari avec le dépôt d'une gerbe au pied de la stèle. Étaient présents les familles des victimes, le collectif du 5 mai, de nombreux politiques et représentants des autorités, mais aussi une délégation de l'Olympique de Marseille, club contre lequel le Sporting devait jouer ce soir du 5 mai 92. Parmi les joueurs marseillais de l'époque, Basile Bollier revient chaque année rendre hommage aux victimes.
La cinquième fois que je suis là, même quand j'étais au Japon, je suis venu là et bon, je pense que c'est quand même important, surtout que c'est la première fois que je voyais des morts sur un stade de foot. Pour moi, ça marque et ça marque pour les clubs. Je pense que les échanges sont très intéressants pour un devoir de mémoire. C'est important de le commémorer par rapport à la jeunesse, de prendre conscience que ça se répète plus, quoi. Donc c'est plutôt important.
Un devoir de mémoire sur lequel travaille le collectif du 5 mai depuis de nombreuses années. Pour Gilles Thionni, ancien joueur du SCB et désormais recruteur, c'est indispensable auprès des jeunes générations.
Le club a un devoir de transmission. Le collectif l'a fait pour la reconnaissance de cette date sacrée où plus aucun match de football ne doit avoir lieu. Et nous, en tant que club, je pense qu'on a aussi un devoir de transmission aux jeunes générations. Alors évidemment, on ne peut pas projeter toutes les images à des enfants de 8, 9, 10 ans, mais leur faire comprendre que, évidemment, Bastia ne sera jamais un club comme les autres. Bastia est un club où des gens sont venus pour une fête et certains ne sont plus rentrés chez eux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important pour nous de leur faire comprendre ça aux Corses et aux gens qui viennent d'ailleurs pour renforcer nos rangs dans les catégories de jeunes.
Un reportage à découvrir aussi en images sur bleurcfm.fr et l'application ici.
Elle arrive dans pile une semaine et un jour.
La flamme olympique, elle sera là mardi prochain, le 14 mai, toute la journée d'Ajaccio à Bastia, en passant passant par l'île Rousse ou Porto Vecchio, un véritable événement, mais qui entraîne forcément son lot de nuisances. Et c'est à Ajaccio, ville de départ de la flamme, que les perturbations risquent d'être parmi les plus nombreuses. En tout, 1000 places de stationnement seront supprimées. Le détail avec Corinne Coistane, directrice de la logistique à la mairie.
On est obligé d'avoir, on va dire, une bulle de sécurité. Bon, nous, on a l'habitude, la ville d'Ajaccio, puisqu'on le fait déjà sur tous les grands événements, 14 juillet, 15 août, etc. Mais ça veut dire qu'on met en place une bulle à l'intérieur de laquelle il n'y a plus de voitures. Donc, ça veut dire qu'à partir du lundi 13 mai à 6 heures, on va enlever sur l'ensemble du parcours tout le stationnement, ce qui représente environ 1000 places. Mais on propose aussi, en compensation, des poches de stationnement pour les Ajacciens qui iront de la Parade à la Place Bio, au boulevard Pouillet-Vicomte, au parking de la Miséricorde qu'on augmente un petit peu, et aussi à Vignette, un terrain prêté par la Chambre de commerce. Mais sur toutes ces poches de stationnement offertes, on met en place des navettes pour permettre aux gens, dès le dimanche, d'aller se garer ou le lundi et de pouvoir revenir en ville par des bus.
Et il y aura aussi des perturbations dans les établissements scolaires. Les écoles seront fermées le matin du 14 mai. Les deux collèges lycées situés dans le périmètre aussi, à savoir le Fèche et le Laetitia. Vous retrouvez sur Bleu RCFM tout le détail du passage de la flamme en Corse, heure par heure et ville par ville. C'était l'un des motifs de la grogne des agriculteurs cet hiver, le plan Ecophyto 2030 pour réduire le recours aux pesticides. Le gouvernement doit le présenter aujourd'hui. La principale mesure sera la mise en place d'un nouvel indicateur. Il est réclamé par les agriculteurs, mais décrié par les associations de défense de l'environnement. Le gouvernement conserve aussi son objectif de réduction de 50% de ses produits d'ici 2030. Et si la pluie ne tombait pas dans certaines régions à cause des canons anti-grêle? C'est la question que se pose la coordination rurale en Corse. Ce dispositif, inventé à la fin du 19e siècle, permettrait de réduire avec des ondes de choc les grêlons avant qu'ils n'atteignent les cultures. Le débat sur son efficacité et ses inconvénients n'est pas vraiment tranché. Le syndicat agricole a déposé une main courante ce week-end auprès de la gendarmerie et veut alerter les autorités sur ce sujet, avoir des réponses et des solutions pour lutter contre les tempêtes de grêle. On écoute Cyril Carr, le président de la coordination rurale pour la Corse.
Sur la plaine orientale, c'est assez courant. On a certains couloirs dans certaines écorégions où il y a ce phénomène qui est assez récurrent. Il existe aussi d'autres dispositifs de défense. C'est pour ça que j'ai contacté l'ODARC dès vendredi pour expliquer la démarche que j'allais entamer concernant les canons à grêle. Donc l'ODARC, j'ai essayé de sensibiliser pour le fait que d'aider à acheter son matériel, ce dispositif de filet, les aider un petit peu plus pour qu'ils aient une défense, parce qu'on peut pas laisser les gens non plus sans défense, sans protéger les récoltes. Mais d'un autre côté aussi, on peut pas laisser ne pas pleuvoir sur les prairies pour les autres. Il faut trouver une solution la plus adaptée, sans pour autant opposer toutes les filières et opposer les agriculteurs. On est tous des agriculteurs, il faut essayer qu'on vive ensemble, tous les uns les autres, comme il se doit.